Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h16, le petit déjeuner politique ce matin. Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion.
Bonjour Elisabeth Borne.
Bonjour.
Avant d'évoquer ce que vous lancez aujourd'hui sur le site Un Jeune, une solution, comment comptez-vous agir face à la crise sans précédent que traverse le monde de l'emploi ? 1 million d'emplois qui ne trouvent pas preneur. Les employeurs sont désespérés parfois dans certains secteurs, à tel point que la reprise économique, selon le MEDEF, est en grave danger face à cette pénurie.
Alors, je pense qu'il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de bonnes nouvelles.
Oui.
Dans le monde de l'emploi, comme vous dites, on a retrouvé le taux de chômage d'avant-crise. On a battu tous les records d'embauche au deuxième trimestre. Vous savez, il y a 2,2 millions d'embauches au deuxième trimestre, dont près de 50% en CDI. Donc ça veut dire que notre économie, elle repart très vite, très fort. Et effectivement, il y a beaucoup de besoins de recrutement. Et dans certains secteurs, il y a des difficultés. Je crois que c'est plutôt 200 à 300 000 emplois.
Ah bah attendez, c'est Pôle emploi qui alerte et qui dit 1 million d'emplois, 900 000 très précisément.
Bon, j'en parlerai avec Pôle emploi. Je pense que c'est plutôt dans les statistiques 200 à 300 000. En tout cas, c'est trop. Moi, je ne peux pas me satisfaire qu'on ait effectivement des entreprises qui ne trouvent pas les compétences dont elles ont besoin.
Oui, à tel point que ça menace quand même cette reprise économique, c'est ce que dit Geoffroy
Roux-Bézieux. Alors, ça fait plusieurs mois, on ne reste pas les bras croisés, ça fait plusieurs mois que j'ai demandé à Pôle emploi d'identifier des demandeurs d'emploi qui peuvent permettre de pourvoir ces offres, de leur proposer, le cas échéant, des formations pour qu'ils aient bien les bonnes compétences, et ça marche. Il y a 160 000 recrutements qui ont été permis par Pôle emploi, par exemple dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants, 25 000 sur les 4 dernières semaines. Et puis, avec le Premier ministre, on verra lundi prochain les présidents de région qui sont en charge de la formation des demandeurs d'emploi. Il faut qu'on s'organise au mieux, localement, en mobilisant tous les acteurs au niveau de chaque région. Je pense qu'il faut aussi que certaines branches réfléchissent à l'attractivité des emplois qu'elles proposent. Notamment dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants, moi je les invite à réfléchir à ce qu'ils peuvent proposer à leurs salariés. Vous savez, j'ai eu l'occasion de voir un cuisinier qui discutait avec un restaurateur. Le cuisinier disait, vous savez, moi avec le confinement, j'ai redécouvert que j'avais une famille et travailler tous les soirs sans voir ma famille en étant payé au SMIC. J'ai plus envie de faire ça.
Bien sûr, il y a des employeurs
Je pense qu'il faut que chacun prenne sa part. Nous, on identifie les demandeurs d'emploi qui peuvent répondre aux offres. On leur propose des formations. On est prêt à mettre encore plus de moyens dans la formation des demandeurs d'emploi. Et ensuite, il faut travailler sur l'attractivité des métiers. Il y a des branches qui l'ont fait.
Non, mais ça devient quand même assez terrible. Dans beaucoup de secteurs, dans l'agriculture, dans le BTP, dans l'industrie, dans l'hôtellerie et restauration, dans un certain nombre de services, y compris en fait dans le tourisme, par exemple, les employeurs disent les gens qui viennent ne veulent pas en fait travailler le soir, le week-end. Donc, ils disent, je préfère rester chez moi.
Vous travailleriez tous les soirs sans voir votre famille en étant payé au SMIC?
Oui, c'est ce que je fais. Pas forcément au SMIC, mais en revanche, je travaille effectivement depuis des années, le soir, le week-end.
Je pense que c'est important.
Non, mais alors, attendez, Elisabeth Borne, ce que vous dites est particulièrement intéressant. Alors, ça veut dire qu'il y a des secteurs où il faut tout arrêter, on ne travaille plus en fait le soir.
Non, je ne dis pas ça du tout. Je dis qu'il faut répondre aux attentes des candidats qui... Et les entreprises, d'où ça vient ? Si on fait des enquêtes, un tiers des entreprises nous disent que les candidats qui refusent une offre attendent sans doute une meilleure rémunération, aussi des meilleures conditions de travail. Ouais. Donc il faut aussi tenir compte de ça. Il y a beaucoup de branches, vous savez, avec lesquelles on travaille depuis des mois, celles qui représentent les travailleurs de la deuxième ligne dont on a parlé, qui l'ont compris, qui sont prêtes à des avancées significatives. Moi, j'étais hier avec la branche propreté, qui prévoit des augmentations de salaire.
Alors, c'est 17 centimes, c'est ça ?
Attendez, qui prévoit des augmentations de salaire qui seront revues en fonction de l'inflation, qui travaille aussi sur l'organisation, le temps de travail, par exemple, pour qu'il y ait moins de coupures dans la journée. Il faut que ces discussions, elles aient lieu dans les branches.
Vous dites, Elisabeth Borne, ce matin, aux chefs d'entreprise, faites un effort. Alors,
extrêmement mobilisés et déterminés à accompagner la reprise très dynamique de notre économie, que nous sommes prêts à former encore davantage des demandeurs d'emploi, que nous allons en parler avec les présidents de région, mais que chacun doit prendre sa part et aussi faire ce qu'il faut pour que les emplois soient attractifs.
Ouais. Est-ce que ce n'est pas aussi finalement la conséquence du quoi qu'il en coûte avec la sortie en fait, de crise et ça manque peut-être de discernement?
Je pense que le quoi qu'il en coûte, vous savez, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, on a une croissance qui sera sans doute à plus de 6% sur l'année 2021, que je vous dis, on a retrouvé, on est même au-dessus du niveau d'emploi d'avant-crise. On a eu les derniers chiffres hier, on a 90 000 emplois de plus qu'avant la crise, donc on a une reprise très dynamique. Ça, c'est grâce au quoi qu'il en coûte qui a permis de protéger nos entreprises et nos emplois, de garder les compétences dans les entreprises. Donc c'est plutôt des bonnes nouvelles.
Bon, est-ce que cette situation peut vous conduire justement à relancer aussi la réforme de l'assurance chômage?
Nous allons relancer la réforme de l'assurance chômage. Alors, elle est largement entrée en vigueur au 1er juillet dernier.
Il y a des critères qui ont été retoqués par le Conseil d'État.
Le Conseil d'État a trouvé que la situation du marché de l'emploi n'était pas suffisamment bonne. Là, je pense qu'on vient d'en parler, ça va pas mal sur le marché de l'emploi. Donc, on va revenir vers le Conseil d'État pour une application au 1er octobre du nouveau mode de calcul de l'allocation chômage. Et puis ensuite, vous savez qu'on a des clauses de retour à meilleure fortune qui devraient effectivement fonctionner d'ici la fin de l'année. Donc, l'objectif, c'est que cette réforme soit pleinement en vigueur d'ici la fin de l'année, avec le nouveau mode de calcul de l'allocation chômage au 1er octobre.
Bon, en revanche, pas le moment de la réforme des retraites. Ça, c'est exclu maintenant.
Écoutez, je pense qu'on vous aurait compris que le président de la République, le gouvernement, considère que cette réforme, elle est indispensable, parce que les sujets qui se posaient avant la crise, ils sont toujours là. Donc, il faudra une réforme des retraites. Le président de la République l'a dit, il ne lancera pas cette réforme tant que la crise sanitaire ne sera pas derrière nous. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Oui. Par contre, dans les concertations qu'on a eues avec les organisations patronales et syndicales la semaine dernière, avec le Premier ministre, je pense qu'il y a un relatif consensus, ou en tout cas on le revérifiera, sur l'importance de travailler sur le maintien dans l'emploi des seniors. Oui. Vous savez qu'il y a beaucoup
À partir de 50, 55 ans...
Soit peut-être physiquement vous ne pouvez plus exercer votre métier, soit on vous dit que vous n'avez plus les compétences.
Parce qu'il y a eu en fait des campagnes qui ont été menées en disant grosso modo qu'il fallait aller chez les jeunes et que voilà, les hommes blancs de plus de 50 ans n'étaient plus indispensables dans la société.
Moi je trouve que ça n'est pas normal que, par exemple, moi j'ai discuté avec une dame qui avait 59 ans, qui était aide-comptable, qui avait été licencié parce qu'on lui avait dit « vos compétences ne sont plus adaptées ». Il faut former les salariés tout au long de la vie, il faut s'assurer qu'on prévient l'usure professionnelle. Je pense que ce sujet-là, c'est important d'en parler, et on reviendra prochainement vers les organisations patronales et syndicales pour voir comment on peut en discuter.
Encore un mot quand même sur les salaires, ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Est-ce que aussi, de votre côté, il peut y avoir une nouvelle prime Macron défiscalisée c'est ça qui doit être pris en compte par les entreprises.
Vous avez raison.
Et puis, ça passe aussi par une augmentation du SMIC ou pas ?
Alors, vous avez raison que dès le mois de mars, on a annoncé qu'on allait reconduire la prime de pouvoir d'achat, ce qu'on appelle la prime Macron. Ça permet aux entreprises de verser jusqu'à 2000 euros totalement défiscalisés. Moi, j'invite toutes les entreprises qui peuvent le faire à verser effectivement cette prime de pouvoir d'achat à leurs salariés.
Oui, alors ce matin, vous annoncez sur la plateforme Un Jeune, Une Solution, 10 000 offres de job étudiants. À qui précisément vous pensez
Effectivement que ça fait plus d'un an qu'on est aussi très mobilisés pour aider les jeunes face à la crise. Le plan Un Jeune, Une Solution, il a permis à près de 3 millions de jeunes de trouver un emploi, une formation, un apprentissage, un parcours d'insertion. Là, on veut aider les étudiants à trouver, enfin qui le veulent, à trouver un petit job. Et donc, on mettra en ligne, dès ce matin, effectivement, c'est 15 000 jobs étudiants. Alors, c'est quoi un job étudiant ? C'est un job qui ne pénalise pas l'étudiant, qui doit poursuivre aussi ses études et réussir ses examens. Donc, on a sélectionné des offres qui sont à moins de 15 heures par semaine. Et j'invite toutes les entreprises à réfléchir à la façon dont elles peuvent proposer des jobs de ce type.
Plutôt un job étudiant que le revenu d'engagement.
Nous travaillons sur le revenu d'engagement, comme le président de la République nous l'a demandé. L'idée, c'est vraiment... Vous savez qu'on a près d'un million de jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en formation. On a beaucoup accompagné les jeunes, comme je le disais, depuis le début de la crise. On veut encore amplifier notre action et faire que chaque jeune qui en a besoin ait un accompagnement et quand c'est nécessaire, une allocation jusqu'à 500 euros pour l'aider à trouver son projet professionnel et à le réaliser, donc à trouver un emploi.
Oui, Elisabeth Borne, vaccination et passe sanitaire maintenant, environ 300 000 soignants ne sont pas encore vaccinés, c'était les derniers chiffres, je ne sais pas si vous en avez d'autres plus précis. Le 15 septembre, c'est la date butoir avant sanction. Il y aura sanction ? Pas d'assouplissement ?
Ce qui est clair, d'abord j'espère qu'il y aura moins effectivement de salariés qui n'auront pas eu leur première dose. Ce qui est clair, c'est qu'à partir du 15 septembre, on ne peut pas continuer à travailler dans un établissement au contact avec des personnes vulnérables si on n'a pas eu sa première dose de vaccin. Je pense que depuis qu'on a annoncé ces mesures, il y a eu vraiment un mouvement massif de vaccination. Vous savez, on a eu plus de 12 millions de Français qui se sont fait vacciner depuis l'allocution du président de la République en juillet. Donc moi, j'invite les soignants qui ne seraient pas encore vaccinés vraiment à avoir cette première dose avant le 15
septembre. Et sinon, il y aura sanction la semaine prochaine.
Enfin, c'est une sanction.
Si c'est 300 000, c'est énorme quand même pour les hôpitaux, non ?
Ils ne peuvent pas rester dans les établissements à partir de cette date. Donc c'est une suspension du contrat de travail. Évidemment, l'objectif, c'est qu'on ait la quasi-totalité,
Oui, parce qu'on manque quand même de personnel. On manque de personnel déjà dans les hôpitaux, donc ça va être difficile.
L'objectif, c'est vraiment d'inciter à la vaccination, parce que c'est très important, quand vous êtes en contact avec des personnes vulnérables, de ne pas risquer de leur transmettre le virus.
Oui. Comment vous jugez les propositions de Marine Le Pen ? Je ne sais pas si vous les avez vues hier, je pense que oui. Elle réclame la privatisation de l'audiovisuel public et la nationalisation des autoroutes pour, dit-elle, faire des économies.
Oui, enfin, ça fait de nombreuses années qu'elle propose à peu près la même chose. Je pense que c'est pas ce que les Français attendent là instantanément aujourd'hui.
Des autoroutes, pourquoi pas, non ?
Bah écoutez, si Marine Le Pen a trouvé beaucoup d'argent, c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'on a peut-être mieux à faire de notre argent.
Oui. Le CSA a pris la décision de décompter le temps de parole d'Éric Zemmour quand il sera dans les médias. Mmh. C'est une bonne décision, selon vous, ou pas ?
Je pense que c'est une décision juste. Vous savez, a priori, on comprend bien qu'il voudra peut-être être candidat à l'élection présidentielle. Il s'exprime beaucoup dans les médias, mais c'est normal que ce soit décompté.
Oui. Merci, Elisabeth Borne, donc ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, d'être venue ce matin au micro de Sud Radio.
À suivre après le journal, la revue de presse de Benjamin Glaise et puis Sylvain Courage sera avec nous, le rédacteur en chef de l'Obs. À tout de suite.